Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec de IDFM Radio avec Christophe et Francky à la technique. Bonjour Christophe, bonjour Francky. Bienvenue sur IDFM Radio à l'économie en direct. Une émission que vous pouvez suivre en FM sur la fréquence 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Aujourd'hui, vendredi 21 avril, ensemble et en direct jusqu'à 11h, situation et développement économique dans le Val d'Oise seront les thèmes de notre émission. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Saussois. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Luc, vous êtes gérant de la SRL Saussois, associé d'une coopérative artisanale de construction et surtout président de la CAPEB 95, donc Confédération d'artisanat des petites entreprises du bâtiment, vice-président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président U2P 95. Vous m'en direz plus sur le U2P 95.
Avec plaisir.
Avec vous, nous allons découvrir la CAPEB et ses actions, ce réseau destiné à représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment. À vos côtés, Ludovic Mirmont. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans nos studios. Ludovic, vous êtes secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France depuis 1995. Toujours à la CAPEB, vous étiez de 89 à 95 au service économique. Vous nous expliquerez comment est structurée la CAPEB et en quoi consiste votre mission au sein de celle-ci. Et à vos côtés, Damien Morel. Bonjour Damien.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Damien, vous êtes réalisateur, producteur et scénariste, fondateur depuis 2012 de la société Chableu Productions. Et président bénévole de Radio RGB. C'est dire que nous ne sommes pas sectaires hein, chez Radio.
Merci pour l'invitation, Radio. Ça fait plaisir.
Je vous en prie, merci à vous d'être là. Avec vous Damien, nous allons parler cinéma et découvrir tout ce que réalisateur, producteur et scénariste signifie précisément. Et vous nous présenterez votre dernier projet, soutenu à fond par Nakano, que nous connaissons bien, la radio. Un projet intitulé Facteur humain et dont nous avons hâte d'en savoir plus.
Avec plaisir.
Bienvenue et merci d'être tous les trois les invités de l'économie en direct. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. L'économie en direct vous propose aussi des chroniques et le vendredi, nous avons régulièrement rendez-vous avec Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, auteur de notre chronique « Décryptons le monde ». Avec lui, nous décryptons les dernières actualités internationales qui ont retenu son attention. Et aujourd'hui, la question que je pose à Gérard directement, c'est « Faut-il croire au déclin de l'Occident ?» Bonjour Gérard. Je n'ai pas de Gérard.
Bon, si, Gérard est là. Bonjour.
Bonjour Jacqueline. Gérard.
Donc, et bonjour aussi à vous inviter.
Bonjour.
Alors Gérard,
vaste question.
Oui, alors nous avons, c'est vrai que nous avons traité ensemble le plus souvent des sujets très précis sur l'Ukraine, l'Iran, la Chine et beaucoup d'autres. Ce matin, vous souhaitez que nous réfléchissions à une interrogation bien plus large. Donc voilà, faut-il croire au déclin de l'Occident ?
Alors c'est une thématique qui a été lancée par un certain nombre d'intellectuels appartenant à ce que l'on appelle justement le camp occidental, mais surtout par des dirigeants russes et chinois qui reprennent cette thématique de plus en plus souvent.
C'est ça. Donc et vous, Gérard, quel éclairage souhaitez-vous donner à cette interrogation ?
Eh bien, donc les régimes que vous venez de citer, la Russie, la Chine, mènent depuis quelque temps à la fois une politique agressive et un discours qui ne l'est pas moins. Donc la politique, eh bien malheureusement on la voit effectivement dans les guerres qui se sont maintenant développées même sur le continent européen. Donc nous sommes abreuvés d'opérations militaires, de manœuvres en Russie, en Chine, donc sur terre, sur mer et aussi dans les airs, et puis donc les opérations d'intimidation telles que les mène la Corée du Nord avec des lancements de dizaines de missiles. Donc le discours du déclin de l'Occident accompagne cette stratégie politique dans le cadre donc d'un affrontement géopolitique global. Il s'agit pour la Russie et la Chine de faire douter ce qu'on pourrait qualifier du camp d'en face, c'est-à-dire nous, les Occidentaux. Cela fait partie de l'affrontement qu'ils ont décidé de déclencher et de mener. Il s'agit donc plus d'un discours que d'une réalité. C'est une idée facile à vendre, facile à admettre, mais que même ne démontre nullement. Et aussi, comment définir cet Occident-là ?
Oui, ça ressemble à de la propagande quelque part. Si vous me permettez ce parallèle. Alors donc, sur le fond, comment vous définissez-vous ce monde occidental-là ?
Écoutez, c'est une bonne démarche de votre part, pour commencer par cette question. A priori, la définition peut être simple, géographique, politique, les États-Unis et puis tous les pays de l'OTAN, par exemple. Bon. Mais si on réfléchit un peu, il faudrait peut-être considérer les valeurs dégagées par l'Occident et dès lors ajouter les pays qui appliquent et utilisent et promeuvent ces valeurs. Alors, quelles sont-elles, ces valeurs ? Eh bien, les valeurs s'appellent fondamentalement l'état de droit. C'est la philosophie de base. C'est elle qui permet de mettre en place et de faire respecter les libertés individuelles, liberté de penser, liberté d'agir, liberté économique, liberté d'entreprendre, de créer des entreprises, le fonctionnement des institutions politiques, la démocratie. Donc c'est un ensemble de dispositions démocratiques électives. Il s'agit alors d'un ensemble de pays totalement différents les uns des autres, mais qui se réunissent autour de ces valeurs-là. On a, par exemple, en Asie, eh bien, le Japon, n'est-ce pas, qui depuis maintenant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, a adopté un modèle totalement ouvert, démocratique. Vous avez la Corée du Sud, vous avez l'immense Inde qui est le plus grand pays démocratique du monde et qui va être bientôt le premier pays en population du monde. Vous avez une île dont on parle énormément, Taïwan, n'est-ce pas ? Voilà, qui applique la démocratie économique et aussi politique. Donc en Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, qui sont électifs, bon. Et puis au Moyen-Orient, Israël. Donc nous constatons en réalité que beaucoup de pays relèvent ou font leurs ces valeurs occidentales. Mais dans des cadres culturels différents. On découvre alors que l'Occident, dans ce sens large, ne se limite pas à l'homme blanc, pour faire simple, mais à une société humaine très diversifiée.
Bon, il faudra peut-être revenir sur certains pays que vous avez cités au niveau de la démocratie, mais bon, une autre fois. Alors, après cette première étape de définition d'un cas de la société humaine occidentale, quelle est votre propre vision, votre analyse concernant sa dynamique ? Est-ce qu'on discerne vraiment un déclin, oui ou non ?
Alors, si l'on veut répondre le plus justement possible à une question aussi globale, il faut choisir un certain nombre de paramètres que l'on peut appeler économie, démographie, technologie et aussi l'attrait, l'appel à vivre dans une société de liberté. Quand on est en déclin, on est plutôt un repoussoir. Bon. Donc, quelle est la position des sociétés humaines par rapport à la notion de liberté ? Donc, si on commence par l'économie, on constate que, et ce sont des chiffres, le PIB, donc la richesse produite par les États-Unis, est encore 40% au-dessus de celui de la Chine. Le PIB chinois est autour de 17 000 milliards de dollars, celui des États-Unis à 24 000 milliards de dollars. Alors, bien sûr, il se rapproche lentement, mais la différence est encore très significative. Si on regarde du côté économique russe, eh bien, les choses ne sont pas très brillantes non plus. On voit donc une diminution, bien sûr, des exportations de produits énergétiques. On voit une inflation à 15%. On voit des taux d'intérêt de la Banque centrale à 7,5%. On voit donc un pays qui est plutôt en phase de déclin économique. Donc, c'est le contraire de ce que l'on nous dit. C'est pas l'Occident qui décline, mais c'est peut-être certains pays du bloc qui s'opposent à cet Occident-là. Donc, d'un point de vue démographie, la situation est encore plus étonnante. La population, Jacqueline, de la Chine, depuis l'an dernier, a commencé à décroître. L'Inde, dès cette année, va prendre la place de pays le plus peuplé du monde. Et la Chine va connaître un vieillissement accéléré, donc pratiquement 25% de la population chinoise aura plus de 65 ans à la fin de cette décennie. On a donc une diminution de son marché intérieur, les retraités, hélas, bien sûr, naturellement, disposant de moins de revenus que les actifs. Donc, la Russie voit sa population diminuer également depuis la disparition de l'URSS. Il y avait, à la disparition de l'URSS, en 1991, 149 millions de Russes. Il n'y en a plus que 144 actuellement. Et la tendance à la baisse s'accélère, avec bien sûr les phénomènes ponctuels tels que le Covid, tels que la guerre. Donc, nous avons le paradoxe et la situation étonnante qu'il y a plus de Français et d'Allemands réunis actuellement que de Russes. Et l'écart va continuer de grandir. La Russie décline plus vite que l'Europe d'un point de vue démographique. Nous sommes plutôt donc dans une situation où la Russie ne veut pas voir son déclin. Donc nous sommes dans un paradoxe absolu.
Alors, Gérard, là vous êtes en train de nous décrire une situation à l'opposé de ce que certains annoncent, et on retrouve bien là votre différence. Vous vous sentez pas un peu seul à marteler ces vérités ?
Alors, non, il y a certainement pas de solitude de ma part. Et donc, on peut aussi évoquer les écarts sur la technologie, sur l'énergie. Mais sur la solitude, voyez-vous, si le modèle occidental devait, comme l'on dit, céder le pas devant un autre, cela signifierait que cet autre représenterait un pouvoir d'attraction, de séduction supérieure, n'est-ce pas ? Alors, demandons autour de nous et demandons aux Africains, aux Américains du Sud, s'ils ont envie simplement de vivre à Moscou, ou à Pékin, ou à Téhéran. Voyez-vous, la question est très simple, et nous devinons les réponses. Personne n'est à l'évidence attiré, séduit par les pays à modèle autoritaire. Demandons aux femmes de la planète si elles ont envie de vivre en Iran. Nous arrivons en réalité à la conclusion que les valeurs occidentales ont non seulement de très belles journées devant elles, mais également que ceux qui annoncent leur déclin vont eux-mêmes avoir à faire face à ce déclin. La paille et la poutre, en quelque sorte. Est-ce un excès d'optimisme de ma part ? Non, le réalisme de l'analyse, comme nous le partageons régulièrement. Donc il y a de bien meilleurs jours à venir du côté occidental, dans les grandes tendances de l'humanité, et ce sont les valeurs occidentales qui vont l'incarner, certes dans le combat, mais in fine, ce combat-là sera gagné. Le déclin occidental est une thématique lancée par les adversaires des valeurs occidentales pour justement tenter d'affaiblir ceux qui les portent. C'est une arme dans le combat des idées, elle ne représente aucunement une justesse d'analyse.
Merci Gérard, c'est pour ça qu'on vous aime en tant que chroniqueur géopolitique chez IDFM Radio, parce que moi j'admire votre positivisme, votre optimisme. Ils vont nous aider probablement à surmonter les plus difficiles réalités du court terme. C'est la fin donc de la chronique. Je rappelle que vous pouvez, que à nos auditeurs du TRISC, ils peuvent retrouver toutes vos interviews et vos écrits sur votre site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard pour de encore de nouvelles et passionnantes analyses.
Merci Jacqueline, bonne matinée à vous.
Merci.
Et à vos invités.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'est l'économie en direct et ce matin nous parlons de la CAPEB et d'entrepreneuriat mais aussi de cinéma. Donc avec à mes côtés Jean-Luc Sossois, gérant de la SRL Sossois, associé d'une coopérative artisanale de construction, président de la CAPEB 95. Vice-président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président de U2P 95. Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. Damien Morel, réalisateur, producteur et scénariste, fondateur depuis 2012 de la société Chableu Production, président bénévole de Radio RGB. Jean-Luc Sossois, merci d'être parmi nous ce matin. Alors, nous avons eu le plaisir de faire de connaissance au vœu de la CMA 95, qui est un bon cru parce que j'ai déjà reçu d'autres invités depuis. Et je suis ravie, voilà, de vous accueillir à notre antenne.
Merci à vous.
Jean-Luc, quelques mots peut-être sur vous et puis votre parcours pour que nous sachions qui vous êtes.
Donc Jean-Luc Sossois, je suis gérant d'une TPE bâtiment maçonnerie, oui. À Vierme dans le nord du Val d'Oise. J'ai suivi des études à l'ESTP à Paris en cursus conducteur de travaux et j'ai suivi aussi l'école des cadres CAPEB nationale dans les années 2010 je crois. Voilà, une très belle expérience.
Avant donc de vous étiez déjà
adhérent, oui, adhérent, bien sûr, parce que l'entreprise familiale était adhérente de la CAPEB depuis 1980 je crois. Et donc moi-même élu au sein de la CAPEB 95, oui.
C'est ça, donc vous avez repris le flambeau d'une entreprise familiale.
Entreprise familiale,
tout à fait. Et ça vous a plu de le faire? Enfin, vous n'avez pas trop été forcé
parce que non, fois, pas du tout, c'est plutôt moi qui ai forcé mes parents d'ailleurs. Donc oui, je voulais reprendre, c'était un choix. Hein. L'entreprise familiale qui était le bébé de mon papa, hein, grosso modo, et de ma maman évidemment, était pas forcément facile à lâcher. Donc oui, je voulais reprendre mais seul et avoir cette liberté. Pour ne pas non plus les noyer si jamais je me trompais.
Ok, oui, bah écoutez, bravo pour cette belle transmission et puis d'avoir su la conduire jusqu'à ce jour. Alors, la CAPEB, c'est un réseau structuré, efficace, présent sur tout le territoire, afin de, comme je l'ai dit, représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises artisanales. Je propose qu'on revienne avec Ludovic Mirmont sur le détail de la structure de la CAPEB, puisque vous allez nous parler d'autres problèmes que vous rencontrez dans votre profession. Mais on peut dire quand même que chaque département comprend une antenne, donc, de la CAPEB, avec un président et probablement un conseil d'administration.
Tout à fait.
Et dans le Val d'Oise, vous êtes ce président. J'ai cru comprendre que chaque antenne était autonome, c'est ça?
Alors, la CAPEB 95 est une composante de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, qui est un département. Hein, c'est comme ça à la CAPEB. On est un département, mais en fait, on regroupe quatre départements géographiques. Le 77, 78, 91, 95. Et donc, je suis président du 95.
Très bien. Alors, la CAPEB, elle s'adresse à... Ce ne sont que des chefs d'entreprise qui sont adhérents?
Principalement,
Louis. Oui, je veux dire, ça peut pas être des artisans salariés qui...
Non. Mais artisans, oui, bien sûr.
D'accord. Oui, artisans, d'accord. Bon, il faut faire la,
il faut faire la nuance,
oui, bien sûr. Oui, vous allez nous expliquer ça.
Ouais. Voilà.
Oui, d'accord. Alors, aujourd'hui, le monde change. Hein. Quel est l'impact et les enjeux, justement, sur vos adhérents que vous constatez aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a, enfin depuis maintenant plusieurs années, hein, une concurrence déloyale hein, vis-à-vis de l'artisanat. Par effectivement les entreprises un peu extra France, hein, principalement de l'Est où la concurrence est largement déloyale. Et puis aussi un peu une concurrence de l'auto-entrepreneur hein, qui fait baisser les tarifs. D'où notre souhait aussi de faire évoluer ce statut qui devrait être à notre goût limité dans le temps.
Très bien. Oui,
qui devrait être une étape intermédiaire vers l'entrepreneuriat.
Donc ce sont des demandes que vous faites remonter aux instances supérieures.
Alors la CAPEB est composée comme ça, c'est une ça vient du terrain
hein. D'accord.
Évidemment on a la Confédération nationale hein, qui a ces discussions au niveau national et au niveau département, on s'adresse aux élus départementaux donc préfets, sénateurs, députés.
Et quelles sont les mesures, les dispositifs qui pourraient être pris pour combattre cette concurrence déloyale et puis
la concurrence déloyale, on le sait,
c'est
simplement la protection sociale qui bien souvent n'est pas la même.
Oui.
Donc il faudrait qu'il y ait une égalité, mais bon, il y a déjà eu des progrès là-dessus sur l'auto-entrepreneur. C'est ce qu'on souhaite, c'est que ça soit limité, grosso modo, à 2 ans et qu'on puisse faire évoluer ces auto-entrepreneurs vers un statut de société
plus solide. Et donc comment la CAPEB intervient-elle dans ce cas par rapport aux problèmes que vous rencontrez avec vos adhérents?
Donc des actions, des rencontres avec les députés, avec les sénateurs et au niveau national avec les ministres, avec le gouvernement.
Très bien. La CAPEB a probablement des besoins, enfin dans la profession il y a des besoins, quels sont-ils? À part ceux que nous venons d'évoquer.
Alors aujourd'hui, bah évidemment, c'est le problème du recrutement, hein, tout simplement parce que le savoir-faire disparaît, hein, grosso modo. Donc on a besoin de former, on a besoin d'attirer évidemment des jeunes vers nous, ce que l'on fait hein, par des actions locales, hein, on pourra revenir dessus, mais en partenariat avec le CFA, avec Pôle emploi, avec la préfecture. Et aussi amener peut-être des gens en reconversion vers des métiers qui sont tout à fait nobles et qui ont ce côté créatif. Peut-être qu'on retrouvera dans le cinéma tout à l'heure, mais c'est important de créer et d'être fier de sa création.
Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous manquez d'apprentis, de personnes comme ça?
Nous manquons d'apprentis, oui, même si le CFA d'Hermont réussit plutôt bien. Mais on manque d'apprentis en général sur le Val-d'Oise, en région parisienne et autre part. C'est un sujet, évidemment.
Oui, et peut-être au niveau de l'éducation nationale, il serait intéressant d'agir.
Vous savez comme moi que voilà les métiers manuels n'ont pas forcément bonne presse.
C'est ça. On en parle régulièrement à la radio.
On en parle régulièrement. On sait aussi que au niveau éducation nationale, on ne met peut-être pas ces métiers en valeur, alors qu'il y a de très belles carrières à faire dedans. On a du progrès, on a de la communication à faire, on a à mettre en valeur ces métiers. C'est un travail.
Très bien. Alors, il existe, bien sûr, c'est une question que je vous pose moi personnellement, il existe la Fédération française du bâtiment. Quel est votre... Donc, on a bien compris que la CAPEB s'adresse à des entreprises d'une certaine taille qui ne sont pas en concurrence donc avec la FFB, j'imagine. Je voudrais juste vous m'expliquer cette différence entre l'un et l'autre.
Alors, la CAPEB est la première organisation patronale de France.
D'accord.
Nous avons plus de 60 000 adhérents.
Oui.
Donc, premier syndicat patronal. Ensuite, nous sommes représentatifs sur les moins de 10 salariés. Donc, notre action est primordiale et prioritaire. Ensuite, effectivement, nous sommes plus ciblés sur l'artisanat, sur la TPE, jusqu'à une cinquantaine de salariés, hein, donc même petite PME. Et c'est notre action, c'est notre domaine.
C'est ça. Et donc les professions qu'on retrouve dans votre secteur, c'est quoi exactement?
Ça va principalement sur l'amélioration de l'habitat, rénovation, maintenance du bâtiment. Voilà.
Vous nous disiez tout à l'heure, avant que l'émission commence, que voilà, vous sentez quand même une certaine inquiétude parce que, compte tenu du climat social, ça a des répercussions forcément sur les activités professionnelles.
Alors, on a plein de facteurs, mais depuis plusieurs mois, hein, forcément, le coût des matériaux qui ne cesse d'augmenter, des tensions sur les approvisionnements, et malheureusement, effectivement, un climat social qui n'est pas propice aujourd'hui à l'investissement, parce que je pense que les gens sont soucieux. Donc quand les gens sont soucieux, ils sont moins enclins à investir, tout simplement.
Oui, et puis on l'a entendu avec notre conférencier en géopolitique, hein, le contexte géopolitique génère des fortes hausses des matériaux, vous le dites, des tensions d'approvisionnement. Ça a des conséquences sur les chantiers ?
Ça a des conséquences sur les prix, forcément.
Ouais.
Ça a des conséquences, du coup, sur tout ce qui est marché négocié ou sur les appels d'offres. Donc, une capacité d'investissement qui a baissé pour le particulier avec la hausse des taux, hein, malheureusement. Donc, forcément, ça a un impact. La frilosité des banques aussi. Faut pas nier. C'est très important en ce moment. On a des études qui montrent que les nombres de prêts est en baisse. Donc, ça, c'est une catastrophe pour nous. Hein, baisse d'investissement.
Vous voulez dire les prêts, les clients. Particuliers, ne prennent plus de prêts parce que c'est.
Bah, c'est pas qu'ils ne prennent plus de prêts, c'est qu'ils n'ont pas de prêts parce que les banques sont frileuses,
Sont
frileuses. Donc ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que c'est l'investissement en moins. Donc ça va se répercuter dans les mois à venir. On avait déjà alerté Monsieur le Préfet à sujet fin de l'année dernière. Malheureusement, rien ne change pour l'instant.
C'est-à-dire Monsieur Philippe Delcourt, vous avez.
Oui. Alors on avait alerté Monsieur Philippe Delcourt sur ce sujet, mais au niveau des banques, rien ne change aujourd'hui. On nous avait promis rattrapage. Le rattrapage, en fait, c'est que les prêts qui avaient été non contractés sur le dernier trimestre 2022 ont été contractés très rapidement, sous 15 jours, 3 semaines, début de l'année. Mais ensuite...
Après ça
s'est arrêté. Il y a rattrapage.
Ils avaient atteint leur...
Alors, je ne suis pas dans le monde bancaire, mais on a bien cet écho. Et voilà, il y a une très grande frilosité.
Dans la flambée des prêts des matériaux, vous pouvez nous citer des produits?
Toutes les familles sont touchées. Donc, vous avez par exemple au 1er janvier, dans une certaine maison de négoce, vous avez eu des hausses entre 12 et 26% en fonction des familles, juste au 1er janvier. Et ça se cumulait aux précédentes hausses sur toute l'année 2022. Donc, vous avez des familles de produits qui ont subi sur un an 50 à 60% de hausse, ce qui est juste.
Oui, complètement fou. C'est-à-dire qu'entre le moment où le devis était signé et le moment où le travail devait commencer, il y a ce delta.
Alors, ça peut être ce delta. Enfin, sur un an, c'est quand même très long, mais il peut y avoir un delta, effectivement. Alors, on nous dit qu'effectivement, on peut demander révision sur les marchés publics, sur les indices BT, ce qu'on appelle, hein, donc qui sont des indices économiques. Sauf qu'il faut savoir que l'indice BT01, par exemple, qui est sur le gros œuvre, a baissé en décembre, ce qui est quand même paradoxal. Donc, voilà, c'est, les index, c'est bien, mais il faut faire attention.
Oui, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Il est compliqué aussi par rapport, par rapport à un investisseur, par rapport à un maître d'ouvrage, d'aller le revoir pour lui dire aujourd'hui on a une hausse, il faut la répercuter. Dans la communication, dans l'échange commercial, c'est quand même pas très bienvenu.
Bien sûr. Ça met la personne en porte-à-faux, c'est clair. Donc ça veut dire que ce sont des chantiers peut-être mis en cause.
Ah mais totalement.
Ou alors des chantiers non terminés, c'est-à-dire du coup pas de facturation.
Non terminés, non, quand même pas. Mais oui, des chantiers qui sont suspendus, qui sont repoussés, franchement.
Et alors vous avez une inquiétude par rapport à des disparitions d'entreprises au sein de la CAPEB?
Disparition, mais c'est plutôt la marge de progression d'embauche qui pourrait baisser. Et un certain constat déjà de baisse, ce qu'on appelle du coût de téléphone chez nos artisans plombiers chauffagistes. Donc c'est assez révélateur.
On commence à s'inquiéter.
Tout à fait.
Oui, c'est-à-dire, on revient à ce que vous nous disiez au début, c'est-à-dire les difficultés s'accumulent et
la baisse du pouvoir d'achat, malheureusement.
Bien sûr. Donc pour arriver à comment faire que le recrutement fonctionne mieux, que faudrait-il faire ? Monsieur Sossois.
Donc on travaille hein, sur l'amélioration de l'image de nos métiers. Il y a eu une campagne nationale, hein, donc c'est important vis-à-vis des jeunes hein, de montrer que ce sont des métiers en devenir encore.
Des métiers nobles, comme
des métiers nobles, tout à fait. Et puis avec une très belle marge de progression, une carrière qui peut être très très intéressante. On a quand même des salaires aujourd'hui en région parisienne qui sont très attractifs, je trouve. Oui. Il faut aussi cesser de parler tout le temps de pénibilité de ce travail. Évidemment, ce sont pas des métiers faciles, mais ce sont des métiers aujourd'hui où on a fait quand même beaucoup de progrès.
Oui. Alors, vous me tendez la perche avec la pénibilité, puisque j'ai pu voir que la CAPEB n'était pas, était contre la réforme de la retraite. Si vous voulez en dire quelques mots.
Alors la CAPEB en elle-même, non, c'est l'UDP qui n'était pas contre, qui a travaillé largement
alors,
avec le gouvernement.
L'UDP, dites-nous.
Alors l'UDP, c'est le pendant grosso modo du MEDEF. C'est,
d'accord.
Voilà, notre président Jean-Christophe Repon, qui est vice-président de l'UDP national, a été reçu à l'Élysée, je crois lundi, au titre de l'UDP national. Donc il y a eu des échanges, des nouveaux échanges, mais il y a eu beaucoup de travail en amont sur la réforme des retraites avec le président Repon.
C'est ça. La CAPEB, elle, n'était pas forcément contre cette réforme.
Il y a très certainement un gros travail à faire sur les longues carrières.
Oui, parce que il faut souligner que dans votre secteur, les gens commencent à travailler très tôt.
Mais surtout ceux qui arrivent à la retraite aujourd'hui.
C'est ça. Oui. Donc, et vous pensez que ça va être pris en compte?
Ah ben, ça on a été entendu.
Ça
on
l'a été.
Entendu à ce
d'accord,
sujet.
Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors, les objectifs que vous vous fixez là au niveau de la CAPEB pour les mois à venir, quels sont-ils?
Alors, nous avons notre troisième édition du Salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France qui se tiendra le jeudi 1er juin à Saint-Olomone, dans notre siège social. Donc, troisième édition puisqu'on a fait notre première édition avant la période Covid. Deuxième édition 2022 et troisième édition cette année, le 1er juin, je le répète.
À quel endroit?
À Saint-Olomone, au 43 rue des Pluches.
D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, vous nous le redirez. On fera une annonce pour...
Tout à fait, vous y serez conviés.
D'accord, très bien.
Donc, un salon professionnel sur la transition énergétique, le développement durable et l'accessibilité.
Très bien. Vous avez aussi, j'ai vu que vous avez eu une signature d'un partenariat de la CAPEB avec Val d'Oise Rénov.
Tout à fait.
Et puis une vidéo sur la fraude des éco-délinquants. Alors expliquez-nous ça.
Oui, alors donc c'est sur les travaux d'amélioration énergétique. Donc nous avons effectivement travaillé avec le conseil départemental du Val d'Oise et Val d'Oise Rénov, puisque c'est le programme SAR, hein, c'est un peu technique, mais c'est voilà, Monsieur Miremont a travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années. Donc ça se concrétise. On a réalisé, effectivement, signé cette convention avec Val d'Oise Rénov et le conseil départemental. Et nous avons enregistré une vidéo sur l'éco-délinquance, enfin la fraude, puisqu'aujourd'hui, vous savez comme moi que c'est un sujet où il y a forcément de l'argent à faire. Et quand il y a de l'argent à faire, il y a des gens parfois malhonnêtes qui s'y engouffrent. Donc c'est une vidéo qui montre par plusieurs interventions certains conseils et ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut plutôt faire.
Voilà, ce qu'il ne faut pas accepter, parce que vous voulez dire que des gens se présentent comme des professionnels et proposent, sont juste là pour soutirer de l'argent aux particuliers sans qu'il y ait derrière un travail.
C'est-à-dire que, alors vous verrez dans cette vidéo hein, que je vous conseille d'aller trouver sur Val d'Oise Rénov ou sur le conseil départemental, vous avez la directrice de la DDTPP, qui est la Direction départementale protection des populations, qui montre bien qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, parfois pour faire signer un marché, mais surtout pour faire signer un prêt bancaire, par exemple, avec un taux d'intérêt plutôt fort, donc juste pour faire de l'argent. Et en l'occurrence, là, on met en place des subventions d'État, donc pour l'amélioration de l'habitat et pour l'amélioration de l'isolation, de manière à avoir moins de consommation énergétique. Donc si on engage effectivement des deniers de l'État et que le résultat souhaité n'est pas atteint, c'est ce que l'on combat. Il faudrait que ça soit évidemment bien fait et bien utilisé.
Oui, c'est compliqué hein, de combattre ce genre de délinquance.
Oui, parce qu'on fait face à parfois des opérateurs commerciaux qui ne sont pas là pour faire des travaux de qualité ni pour faire de la performance énergétique, mais tout simplement pour faire du fric, il ne faut pas se le cacher.
Oui, on est bien d'accord. Ça vient se rajouter à tous les écueils que vous...
Ah oui, les combats sont nombreux.
Sont longs, sont compliqués. Monsieur Sossois, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre?
Non, mais monsieur Mirmont va certainement pas refaire mes dires.
Très bien, mais de toute façon, vous pourrez intervenir, bien évidemment,
c'est gentil, merci.
Tout au long de l'émission.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre engagement. Et puis, nous avons compris que vous allez poursuivre votre mission hein, sans perdre de vue les objectifs que vous
avez. Et j'aurai plaisir à venir vous voir.
Ah ben, écoutez, avec grand plaisir, c'est pareil.
Merci.
Il est temps de faire une première pause. On se retrouve juste après.
J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner.
Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés.
J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow, oh, oh my sweet darling.
De rester agréable et j'étais sûr que j'étais doux et j'étais tout sauf ça.
J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi, j'ai compris le sens du mot
touride et juste pour ça. Oh my sweet darling, no.
Sur ma peau, j'en tiens tous les refrains, la sueur de ce soir. Où vous et moi, un peu par hasard. J'ai vu les premières fois des hauts, des bas, et tant des bas sur des gens comme moi.
Attention à toi, car tes fesses, moi, je m'en lasse pas.
Oh my sweet darling, no.
Rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio, situation artisanale dans le bâtiment et cinéma dans le Val d'Oise sont les thèmes ce matin de notre émission avec toujours mes invités Jean-Luc Sossois, gérant de la SRL Sossois, associé d'une coopérative artisanale de construction, président de la CAPEB 95, vice-président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président de U2P 95. Ludovic Mirmont, secrétaire général de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, et Damien Morel, réalisateur, producteur et scénariste, fondateur depuis 2012 de la société Chableux Productions, président bénévole de Radio RGB. Ludovic Mirmont, alors vous, j'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir il y a plus de 2 ans, hein, ça passe vite. Ludovic, peut-être nous rappeler votre parcours.
En quelques mots. Moi je suis tourangeau hein, d'origine, donc j'ai fait mes études à Tours. J'ai fait des études qui s'appellent le Centre d'études supérieures en aménagement du territoire, qui s'appelle maintenant Polytech Tours, enfin ça a évolué. Ça commence à dater un peu.
Bah écoutez, moi je trouve que vous n'avez pas changé depuis 2 ans.
Et donc, merci, c'est gentil. Et donc, pour le travail, je suis monté donc dans le Val d'Oise où directement j'ai été recruté. Donc à l'époque, ça s'appelait la FAPEB,
oui.
Pas la CAPEB, en 89. crois que ça date aussi un petit peu. Et
c'est-à-dire que c'était une fédération plutôt qu'une confédération.
Alors non, c'était déjà le au niveau statut, ça n'a pas beaucoup évolué. C'était les noms, c'était la dénomination des structures. Si vous voulez, après on est rentré dans les années 80-90 où on a essayé d'harmoniser un petit peu. Enfin, quand je vous expliquerai, vous comprendrez mieux pourquoi il y avait ce besoin d'harmoniser. Et puis donc service économique durant pas mal quelques années, et puis après effectivement une fois que le secrétaire général est parti, le prédécesseur est parti, donc a fait valoir ses droits à la retraite, et ben promotion interne, donc j'ai pris des fonctions et puis voilà, depuis je suis resté secrétaire général à la CAPEB.
Très bien, très bien. Alors avec Jean-Luc Sossois, on a bien compris que la CAPEB offre aux artisans du bâtiment un véritable service de proximité. J'ai pu voir qu'elle était présente sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que les DOM-TOM. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez les séquences entre les départements, les régions et puis aussi confédération.
Tout s'il à fait. Vous plaît. C'est d'ailleurs une des différences, vous posiez la question tout à l'heure avec la Fédération française du bâtiment, puisque nous on est une confédération. C'est dans notre intitulé, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bien que maintenant on est représentatif sur toutes les tailles d'entreprises, petites ou grandes, on est reconnu.
Vous avez élargi votre champ d'action.
C'est ça, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises aussi qui ont plus de 20, 30 salariés parmi nos adhérents. Donc confédération veut dire qu'en fait c'est la base. Enfin, c'est des départements qui sont patrons chez eux.
Très bien.
Chaque année, il y a une assemblée générale, confédérale, où là sont discutées donc les résolutions amendées par les départements et les actions qui seront amenées sur l'année qui vient. Mais chaque département est patron chez lui, à son budget, à ses finances, mène les actions qu'il souhaite.
Autonome et final.
Les départements se sont associés pour créer des entités régionales. Des unions régionales. Donc la région, c'est pas un niveau au-dessus des départements, c'est les départements qui font les régions.
D'accord, je comprends.
Et au-dessus de national, c'est des départements qui font le national. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'harmonisation. Et évidemment, durant très longtemps, puisque la CAPEB a été créée en 45, nous sur le département, je pense que c'est au début des années 60, Beauchamp jusqu'en 93, et puis maintenant Saint-Ouen-l'Aumône depuis 93. Et donc il a fallu harmoniser, que ça soit charte graphique, logo, et une charte réseau qui a été mise en place pour qu'on fonctionne quand même avec des statuts communs.
Oui, qui soient quand même cohérents.
Mais sans enlever
l'autonomie de chacun.
Plus que de l'autonomie, chacun est patron. Et on est patron chez nous.
C'est ça.
On décide d'engager une action, on engage une action. Oui. On n'a pas ni en référer à un niveau au-dessus. Voilà.
Très bien. Alors, Monsieur Sossois nous a bien dit que vous aviez un poids au niveau des instances gouvernementales. Je vois aussi que vous avez aussi au niveau européen.
EBC effectivement, où on a un niveau d'action au niveau européen, que ça soit via l'UDP, et que ce soit via la CAPEB. Alors au niveau européen, en fait, ça regroupe tous les membres de la CE n'ont pas forcément un syndicat dans l'artisanat du bâtiment, mais il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a même l'Angleterre, en Belgique, vous voyez, un certain nombre de pays, et donc ils sont groupés, et la présidence tourne. C'est un peu comme tous les syndicats au niveau européen, la présidence tourne, c'était la CAPEB il y a quelques années, bon maintenant je pense que ça sera dans un certain temps, et ça permet évidemment d'intervenir et de peser autant que l'on peut sur les les décisions prises à Bruxelles, qui ont des conséquences évidemment sur l'activité de nos entreprises.
C'est ce que j'allais dire, elles ne sont pas toujours les bienvenues.
Un exemple vite fait, on a eu les poussières bois à un moment, c'est-à-dire qu'il fallait des appareils pour que les poussières bois n'aillent pas dans l'air, donc ça part toujours d'un bon sentiment au départ. Simplement, on se rendait compte qu'il n'existait pas une machine qui était capable d'aspirer, parce que c'était de la taille du micron, quelque chose qui avait été décidé comme ça sans vraiment connaître la vie.
Oui, c'était vraiment de la poussière, quoi.
C'est même inaspirable, quoi. Il n'y a pas d'appareil qui peut aspirer ce genre de poussière, donc c'était impossible. Il y en a eu d'autres, l'exposition à la chaleur, enfin, il y a eu des trucs comme ça qui étaient un peu farfelus, donc il faut veiller au grain.
C'est
C'est ça. C'est notre boulot.
Juste un mot encore sur l'UDP 95. C'est un syndicat qui est parallèle à la CAPEB.
L'UDP. Bon, comme vous le disiez, le président Saussois, l'UDP, bon, a été créé en 75. En fait, ça regroupe les trois familles de l'artisanat. Donc c'est de l'artisanat. Donc même les quatre, oui, les cinq, exact. J'en oublie deux, mais il y en a une qui est membre associée, et puis une autre qui s'est rajoutée à nous il y a quelques années. Donc vous avez tous les métiers de l'alimentation, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, voilà tous ces métiers-là. Ça c'est les métiers de bouche. Vous avez les métiers de service, taxi, coiffeur, bijoutier, mécanique auto, prothésiste dentaire, tous ces aussi ces métiers-là. Et puis les métiers du bâtiment, la CAPEB.
Très bien. Voilà.
Donc ces trois entités. Bon, c'est rajouté en 2018 l'UNAPL, toutes les professions libérales, médecins, assureurs, avocats, organismes de formation, mais indépendants. Et puis, donc, ça fait le... Tout ce qui est en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant, c'est les commerces de proximité.
D'accord.
Tout ce que l'on peut trouver, vous êtes en centre-ville, tous les commerces de proximité que vous pouvez trouver, c'est l'U2P qui en est l'organe représentatif. Hein? Et au niveau interpro, il y en a trois. Il y a donc le MEDEF, la CPME et l'U2P.
Très bien.
Ce qui est interpro, les retraites, c'est l'interpro qui négocie, c'est l'U2P. Par contre, tout ce qui va être de branche pour le bâtiment, ça va être la CAPEB. Hein? Et là, donc, d'où notre représentativité.
Hein? Ce qui ne veut pas dire, en revanche, que tous les artisans, tous les commerçants dont vous nous parlez sont adhérents et de la CAPEB ou de l'UDP.
Alors, non. J'irais même que la plupart des entreprises ne sont adhérentes nulle part.
Ah oui.
C'est pour ça que souvent... on entend dire, moi je suis une petite entreprise, je suis tout seul, je sais pas vers qui me tourner, on me demande d'être reconnu garant de l'environnement, mais on nous explique pas comment ça marche. Quand j'ai un problème juridique, je suis tout seul, personne vient m'aider. Achat. C'est parce que ça, ce sont des entreprises qui n'ont pas fait la démarche de se rapprocher d'une organisation professionnelle, notamment de la CAPEB. Et là, ces entreprises-là, si elles faisaient cette démarche-là, bon, nous, on essaye de communiquer, de faire connaître, de faire savoir tout ce que l'on peut apporter, que ça soit au niveau défense des intérêts,
parce
qu'il y a ce côté syndical qui est important,
mais aussi au niveau service. La fédération de l'Union fait la force.
Et il y a le côté service au quotidien.
Bien sûr.
Entreprises, elles ont besoin d'un service juridique, elles veulent se qualifier, de se former, elles ont une question comptable, une question technique. Bon, tout ça, nous, au quotidien, on leur apporte ces informations-là. Hein. Et donc, c'est pour ça, moi, je rage un peu quand j'entends des reportages et tout ça, quand on dit personne n'est là pour nous aider, on nous laisse nous débrouiller tout seul. Je dis non.
Non, c'est pas vrai.
Il y a des organisations qui existent, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à les appeler. Ouais. Et ils verront qu'ils vont à Saint-Olomone, là, et toc-toc à la porte.
Alors, dites-nous si des auditrices, auditeurs veulent vous rejoindre, que faut-il faire?
Alors, ils peuvent nous contacter, bien sûr, par téléphone au 01 34 32 33 66. Ils peuvent aller sur notre site internet, ils auront toutes les informations. Site internet qu'on a refait, ils verront une mine d'informations. Ils peuvent évidemment venir sur place, nous rendre visite. Et puis voilà, enfin, il y a tous les moyens.
C'est ça, c'est très accessible
Très accessible, il n'y a pas de problème pour venir nous voir, nous appeler. Et nous, bon, vous savez qu'on a la particularité de couvrir 4 départements.
D'accord.
Hein, on est une exception en France.
Oui.
En général, c'est une CAPEB par département. Et on a donc nos services, ce qui nous permet de mutualiser un certain nombre de services. Donc, on est une équipe de 12, que je salue parce que certains m'avaient dit qu'ils m'écouteraient ce matin.
On les salue aussi
Bonjour à tous.
Ouais. Hein? Et puis aux élus qui nous écoutent aussi, on en profite, Jean-Luc, parce qu'effectivement, on avait passé le message. Donc, on est là pour le... On a notre service juridique, par exemple, qui est implanté sur les sols, mais qui répond aux besoins des entreprises des 4 départements.
D'accord.
Cette mutualisation nous permet donc de répondre avec 12 personnes à 4 départements.
Oui, donc ça représente combien d'adhérents.
Et on couvre tous les services que peut avoir besoin d'une entreprise, en formation, en qualification.
Oui, qu'elle ne pourrait pas s'offrir personnellement.
Si on avait une CAPEP par département, effectivement, on ne pourrait pas apporter tous les services que l'on peut apporter en mutualisant. Mmh. Donc la CAPEP Grande Couronne, c'est aussi une démarche qui est originale dans le contexte CAPEB, hein, mais qui a fait quelques émules en province, puisque maintenant il y a des CAPEB aussi qui se regroupent pour apporter les services qu'ils peuvent pas apporter, qu'ils pouvaient plus apporter seuls ou qui voilà.
Bah écoutez, merci Monsieur Mirmont, c'est très clair. J'ai pas fini de vous interroger.
Ah pardon.
En tout cas, merci pour cette structure.
En tant qu'organisation professionnelle patronale, ce qui nous fait vivre, c'est les cotisations payées par les adhérents. Mmh. C'est-à-dire qu'on est complètement indépendant dans nos prises de position, dans les actions qu'on mène et dans les services qu'on apporte aux entreprises. Hein, on n'attend pas de l'argent. On peut avoir quelques subventions sur des actions qu'on mène pour nous accompagner, ça c'est évidemment. Hein. Mais 80% de nos ressources sont des adhésions que les entreprises nous versent chaque année.
Donc, même statut que IDFM Radio, qui attend aussi des adhésions de ses adhérents, de tout le monde pour mieux vivre.
Et ça nous permet de garder cette indépendance d'action et de défense des intérêts des entreprises.
Et pour vous répondre, Jacqueline, on a un peu plus de 2300 adhérents.
Ah, très bien, merci, merci Jean-Luc.
Et nous sommes en progression puisque nous avons des services de qualité.
Oui,
et je remercie à nouveau les salariés.
C'est ça, parce que je pense que avec toute la crise depuis ces dernières années, les gens comprennent qu'ils ont besoin d'être soutenus.
L'artisan, la petite structure est la tête dans le guidon.
C'est
donc
ça,
on a besoin de les accompagner.
Déjà,
on a besoin
d'avoir d'entreprises, mais je pense que les artisans encore plus.
Voilà. Donc vous connaissez l'attente pour avoir un artisan de qualité. Donc on a besoin d'amener des services à ces gens-là, de les aider. Mm-hmm. C'est ce que l'on fait, les accompagner, les représenter, les défendre. C'est primordial.
Oui, merci Jean-Luc Sossois. On comprend que vous êtes très investi dans cette mission.
Je suis un homme de conviction.
Oui. Ludovic Mirmont, vous souhaitiez nous parler des ZFE, donc les zones à faible émission. Mmh. Donc je vous en prie.
Alors ça c'est une problématique sur laquelle on se penche depuis plusieurs années. Mmh. Hein. Donc là, nous, plus particulièrement pour notre CAPEB, c'est plutôt la métropole du Grand Paris qui va mettre en place une zone à faible émission. Alors ZFE, c'est quoi? C'est interdire l'accès dans la zone de la métropole du Grand Paris, l'accès aux véhicules thermiques. Et polluants d'ici 2035, je crois maintenant, 30 ou 35. Ce qui veut dire que donc, les entreprises qui vont travailler sur le secteur de la métropole du Grand Paris, il faudra qu'elles s'équipent en véhicules qui permettent donc d'accéder à cette zone, c'est-à-dire véhicules électriques, hydrogène, gaz naturel de ville, bref. Des technologies qui sont soit en train d'émerger, soit qui sont pas prêtes de genre l'hydrogène, c'est pas tout de suite que ça va être au point. Ouais. Du coup, nous les entreprises, les véhicules, l'offre elle est pas au point. Ceux qui existent sur le marché, ils sont hyper chers. Ceux qui existent, l'autonomie, il y en a pas. Même s'il y a des aides, ça suffit pas à compenser le coût. Puis on parlait l'activité des entreprises, il y a eu les prêts garantis par l'État,
les PGE,
il y a eu des choses comme ça. Donc les entreprises, elles sont un peu
étranglées.
C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils ont dit on met en place ces zones à faible émission sans s'assurer avant que les entreprises, et pas que le bâtiment, mais nous notamment, puisque on va sur les chantiers, on se déplace, sans vérifier avant qu'il y avait une offre qui existait, que ça soit en véhicule et que ça soit en zone de recharge.
C'est ça,
Vous regardez, bornes électriques, on commence à en voir, mais pas d'autonomie, charge, ça pose plein de questions, ces zones à faible émission, parce que les salariés qui ont des véhicules, le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller passer une heure à charger son véhicule. Il va le faire chez lui avec sa propre électricité. Bon, bref.
Oui, enfin, c'est.
En tous les cas, c'est pas au point. Donc, nous, ce qu'on demande depuis plusieurs années, c'est soit une dérogation pour les entreprises, pour la CAPEB, pour les entreprises du bâtiment, et soit de reporter quand même les échéances tant qu'on n'a pas quelque chose qui convient. Parce que les entreprises sont, on comprend hein, le problème de la pollution, de du développement durable, qu'il faut effectivement aller vers de moins en moins de véhicules polluants dans les zones très urbanisées. Mmh, hein, mmh, ça, c'est évident.
Bien sûr, oui, oui, mais il faut, bah oui, il faut que tout soit cohérent.
Et comme on dit aussi, il y a beaucoup, 25% du chiffre d'affaires des entreprises du Val d'Oise, on avait fait une enquête, se fait sur la zone du Grand Paris, métropole du Grand Paris. Donc, quand ils nous disent, ils interdisent l'accès aux véhicules polluants sur Grand Paris, leur propre population parisienne et Grand Paris, s'ils veulent appeler une entreprise, elles n'auront même plus d'entreprise à appeler. Déjà que c'est compliqué d'avoir une entreprise des fois.
C'est du vécu en ce qui me concerne.
Ça encore compliquera
la tâche. Bien, et vous espérez justement une réponse positive ?
Alors bon, ça avance quand même assez bien parce que on a la CAPEM nationale aussi qui s'implique fortement, l'échelon régional, donc on espère qu'on va finir par faire entendre raison et puis qu'on obtiendra quand même soit une dérogation, délai supplémentaire.
Ouais, j'espère, on vous le souhaite parce que ce serait vraiment... Oui, Jean-Luc,
oui, Jacqueline, au sujet des aides et feux, il faut noter qu'il y a un questionnaire qui est sorti par l'UDP suite à, comment dire, à une enquête parlementaire. Donc j'incite tous les artisans commerçants du Val d'Oise et de région parisienne à répondre à ce questionnaire. Nous diffuserons l'information prochainement, mais c'est un questionnaire qui est important au niveau parlementaire et donc qui permet de faire un audit un peu de chacun sur ce sujet. Donc le sujet est pris au sérieux. Nous avons rencontré la sénatrice Eustache Brigno et sénateur Bazin au Palais du Luxembourg il y a quelques mois. Le sujet est très sérieux et c'est très important et nous combattons franchement ces impositions, ces impositions qui sont un obstacle énorme pour nous.
Je crois d'ailleurs même avoir vu un communiqué passé de ces deux sénateurs à ce sujet.
C'est possible.
Il y a pas longtemps. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Ludovic Mirmont pour votre exposé.
Je vous en prie.
Et puis toutes ces précisions sur la CAPEM.
Si je peux une dernière chose, Jacqueline. On aura un sujet important à traiter prochainement, c'est la rénovation énergétique.
Oui.
Parce que nous sommes à la CAPEM des acteurs et l'artisanat sera acteur de cette rénovation énergétique. Il y a beaucoup à faire. Il y a des chantiers énormes et le sujet est important.
Il ne faudrait pas passer à côté.
Le sujet est important et ça ne pourra pas se faire sans nous. Nous devons être acteurs et c'est un sujet très très sérieux et futur.
Bah écoutez, je le retiens et puis on voit ça pour les semaines à venir. Oui,
juste une
précision,
parce que c'est vrai que quand on est parti, mais bon... On accompagne aussi des entreprises, donc il faut se positionner sur les marchés publics et les appels d'offres.
Ah oui, c'est important ça.
Donc là, on a toute une série d'outils, il y a la formation, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on peut accompagner, on peut aider, et je dirais que si on suit l'accompagnement, on a un outil Nouma, je dirais que c'est plus facile pour une entreprise d'arriver à répondre à un appel d'offres que d'obtenir son passeport actuellement. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller.
C'est vrai que les marchés publics,
c'est une opportunité qui peut être intéressante.
C'est un vrai casse-tête.
Avec le sujet coopérative artisanale de construction, là encore, vous voyez, on a de la matière.
Vous reviendrez.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic.
Merci à vous.
Mirmont. Et puis... on a les coordonnées que vous avez données pour l'adhésion à la CAPEB se retrouveront bien sûr sur le podcast.
Merci.
Donc on va faire quelques minutes pas trop longues pour pouvoir retrouver Damien Morel dans quelques instants. À tout de suite. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a French boy who's lost his own. Put it in harmony, let the words ring.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne tout. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Nous parlons de la CAPEB, des artisans dans le bâtiment, et nous parlons aussi de cinéma avec toujours mes invités Jean-Luc Sossois, Ludovic Mirmont, Damien Morel, réalisateur, producteur et scénariste, fondateur depuis 2012 de la société Chable Productions, président bénévole de Radio RGB. Eh bien, focus sur vous, Damien Morel. Alors, bonjour. Damien, j'ai vu que vous aviez une licence de cinéma.
Oui.
On peut donc supposer que vous avez toujours voulu être dans ce domaine.
Effectivement, ouais. En fait, il se trouve que même initialement, je voulais être comédien quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance, en fait, en 89, de jouer dans un film de Pascal Thomas où je suis parti un mois en vacances sur l'île de Ré pour un tournage, et je me suis retrouvé au milieu de comédiens dont j'allais comprendre après que c'était des comédiens prestigieux.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 11 ans.
11 ans.
Et j'étais avec Michel Robin, j'étais avec Jean-François Stévenin, j'étais avec Guy Marchand.
Ah oui.
Et on est parti un mois sur l'île de Ré comme ça, et je me suis dit, mais ça c'est un métier, donc on s'amuse. Je pense que le virus est arrivé là. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, j'ai créé une association pour faire mes propres courts-métrages. Et pendant 10 ans, je vais réaliser, autoproduire 8 courts-métrages, toujours dans le Val-d'Oise. Moi, je suis du Val-d'Oise. Hein,
vous êtes un pur Val-d'Oisien.
Pontoise, Éragny, Saint-Olomone, Cergy-le-Haut.
D'accord.
Je vadrouille. Et en fait, au bout de 10 ans d'associatif, où j'apprends mes gammes, je me dis, OK, maintenant, il faut faire le choix. Soit ça reste une activité peut-être sérieuse, soit ça devient mon métier. Mmh. Et c'est là que je rebondis sur ce que disait Monsieur Sossois tout à l'heure, c'est que je suis passé par la case auto-entrepreneur pendant 3 ans. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant comme statut, puisque ça m'a permis de faire la transition entre l'associatif et le moment où je crée ma société de production. Voilà, on crée des liens très forts à ce moment-là, notamment avec l'URSSAF, qui vient donc un ami incontournable. Voilà.
Monsieur
URSSAF, ou monsieur madame, hein, y a pas de problème. Oui. Mais effectivement, ça permet, en fait, moi j'ai trouvé pour mon activité de cinéaste où je vais aller comprendre ce que j'ai vraiment envie de faire dans ce métier. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans d'associatif à tenir la caméra, est-ce que je veux faire de l'institutionnel, est-ce que je veux faire de la publicité, du clip, ou est-ce que je reste accroché à mon rêve de cinéma? Et qu'est-ce que ça veut dire économiquement? Et c'est comme ça qu'en fait en 2012 je vais monter Chable Productions pour partir sur des projets cinéma de manière complètement inconsciente, parce qu'il faut être un petit peu fêlé quand même pour vouloir faire du cinéma. Et c'est comme ça qu'en fait, plusieurs choses. 2017, je vais avoir l'aide à l'écriture de la région Île-de-France pour un premier long métrage. Ça, ce qui est plutôt intéressant.
C'était une belle, c'est que vous avez été quand même reconnu sur vos qualités, donc, hein, parce que j'imagine que la subvention, elle n'est pas donnée comme ça.
C'est ça, on est un peu sur du Jean-Claude Duss, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un malentendu au bout d'un moment. C'est-à-dire que là, pendant 5 ans, je vais frapper à la porte de toutes les aides publiques pour développer du cinéma, un premier long métrage, et c'est non, 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 et au bout d'un moment, c'est oui.
Ça, ils en avaient assez de vous voir, peut-être.
Je sais pas. Non, non. Alors peut-être, effectivement, parce que je suis taureau, moi, hein, donc j'ai tendance à leur comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, à quitte à prendre. Et c'est là, de toute façon, c'est ça qui est passionnant dans le cinéma. C'est qu'il y a l'art du déséquilibre. Il y a une stratégie de l'échec qui est absolument passionnante. C'est-à-dire que...
Damien, je voudrais juste vous poser une question parce que, donc, vous avez complètement abandonné le souhait d'être comédien.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des courts-métrages et des films, il y a des comédiens qui me disent « Ah oui, ça sent que tu es comédien dans la manière de diriger les personnages. » Et il y en a parfois qui me disent « Oui, non, ça serait bien que tu reviennes à ces amours-là. » Moi, en fait, j'ai appris à développer ma passion pour la mise en scène, ce qui inclut écrire une histoire. Donc là, c'est la compétence scénariste. Mmh. Et en même temps, de par l'associatif, ça va être tout mettre en moyen pour réaliser ce projet. Donc, et c'est là que ce que je trouve passionnant dans le métier de producteur, c'est que c'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'ok, j'ai un objectif, je vais faire un film, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles compétences? Quelle équipe? Quel financement? Quel aboutissement pour le projet? C'est là que ça devient fou. C'est-à-dire qu'on va mettre des années à monter un projet, rassembler une équipe, rassembler un budget, pour un produit au final, On ne sait même pas si ça va fonctionner.
On ne sait pas. C'est toute la difficulté.
C'est le prototype.
Oui.
C'est le principe du prototype.
Oui, parce qu'après, il faut que cette œuvre soit distribuée. C'est toute la difficulté.
Ça peut être distribué. Alors, il y a des festivals. Il y a beaucoup de choses, quand même, qui sont mises en place, qui sont proposées. Oui, on était en train de dire tout à l'heure que les aides publiques sont peut-être un peu compliquées à obtenir. Oui, mais attendez, on parle quand même de montants qui sont assez fous.
C'est ça.
Là, les chiffres du CNC sont sortis pour l'année 2022. Je rappelle tranquillement qu'un film moyen au cinéma, le budget moyen d'un film, c'est 5 millions.
Ah ouais.
Et qu'un premier long métrage de cinéma, pour être un minimum sérieux par rapport à son équipe, au système de production, un premier film, c'est en moyenne 2 millions d'euros.
Mm-hmm.
Et ça, c'est tranquille. Donc, on est quand même sur des sommes.
Ouais.
On peut comprendre qu'il y a un parcours du combattant à assumer.
Alors, on l'a bien compris, être dans le cinéma, pour vous, c'est une passion, même, je pense, pour tous ceux qui sont dans le cinéma. J'ai relevé une phrase de Quentin Tarantino qui dit que si on est passionné, on peut arriver à faire un bon film sans forcément avoir d'expérience. Vous validez ?
Moi, je me suis jeté là-dedans.
Ouais.
Je me suis jeté là-dedans. C'est effectivement, on ne manque pas de vous rappeler régulièrement que vous n'êtes peut-être pas technicien et que vous ne savez pas quelle focale ou ce genre de choses. Mais par la passion, enfin, moi, je viens de la fac. Hein. Je suis vraiment un produit du public. C'est-à-dire qu'à la fac, typiquement, on va vous montrer des portes, des directions où aller. On ne va pas ouvrir les portes pour vous. On ne va pas vous dire si la porte est ouverte et fermée. Et on ne va pas vous indiquer non plus l'accès à la fenêtre, si la porte est fermée. Mais c'est ça. De toute façon, au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais, quand on commence à mettre les mains dans le cambouis, j'avais un prof de cinéma qui me disait, réaliser un film, c'est mettre les mains dans le cambouis. Et j'avais un prof en production qui disait, être producteur, c'est résoudre une succession de problèmes.
Oui, c'est ça. C'est un peu le cas de tous les chefs d'entreprise, en tout cas d'une certaine taille. Mais vous êtes chef d'orchestre, donc il faut savoir tout faire et puis tout diriger. Damien, alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre projet là, qui est en cours, donc Facteur Humain. Juste avant de répondre à ça, pourquoi Chableu ?
Chableu Productions, pourquoi le nom Chableu? Alors Chableu, j'ai une passion pour un studio qui s'appelle Ghibli, les studios Ghibli de Miyazaki, qui a produit des tas de films extraordinaires, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise, voilà. Et moi, je cherchais un nom un peu, un petit peu magique comme ça. Et Chat Bleu, il y a cette idée d'un animal qui n'existe pas, alors qu'en fait, le Chat Bleu existe réellement. Et vous le connaissez très bien. Et voilà. Donc il y avait ce côté un peu neuf vie.
Voilà, ma curiosité est satisfaite. Alors, Facteur Humain, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce film ?
Facteur Humain, j'ai commencé à l'écrire en 2016. J'ai eu une idée, un point de départ. Et j'en suis aujourd'hui en 2023 avec c'est en train de se concrétiser. Hein. Facteur Humain, c'est un court-métrage, c'est une comédie. C'est l'histoire d'un guitariste en panne d'inspiration qui va trouver 10 000 euros tous les jours dans sa boîte aux lettres.
Sans savoir d'où ça vient.
Voilà, il s'appelle Harold, il a 30 ans, il a une audition cruciale en tant que guitariste qui approche à grands pas. Il doit pondre le solo de guitare incroyable et il n'y arrive pas. C'est le blocage total de l'artiste et tous les jours dans son appartement, dans son immeuble, il joue de la guitare. C'est une catastrophe. Et tous les matins à la même heure, on a le gardien de l'immeuble qui vient frapper à la porte et qui lui dit « Écoutez, monsieur Harold, là, faut arrêter de faire du bruit ». Et Harold, un matin, descend dans le hall d'accueil de l'immeuble, il ouvre sa boîte aux lettres, il tombe sur une enveloppe ocre, scellée à la cire rouge, anonyme bien sûr, une enveloppe assez volumineuse, et dedans 10 000 euros en billets. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, tous les matins, une enveloppe de billets. Et donc, le gardien et lui, donc le gardien qui est une sorte d'hypochondriaque à la... Pierre Richard, vous voyez, il y a une peau de banane, c'est pour lui, quoi. Et ce duo improbable va mener l'enquête pour savoir d'où viennent les enveloppes. Et alors, ça, d'accord, c'est le côté un peu comédie. Maintenant, moi, au-delà de ça, je fais un projet Made in 95. Là, je fais un défi d'entrepreneur. Je lance un projet économique, en fait. Je suis en train de fédérer, parce que je suis très content d'être invité dans une émission d'économie, parce que c'est quelque chose
qui... Ça pouvait pas tomber mieux.
Ah ouais, j'adore ça. Dès qu'on peut commencer à mettre un coup de projecteur sur l'économie de la fabrication d'un film... Je trouve ça super intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que faire un film, bon, on va rassembler des entrepreneurs. Un tournage de cinéma, enfin, vous le savez aussi bien que moi, en radio, on fait appel à des corps de métiers différents. Au cinéma, on va, sur un tournage, on va faire appel à 50 corps de métiers différents.
Oui, il n'y a qu'à voir les génériques quand on voit toute la, la liste.
Ouais. C'est un focus d'économie passionnant. Mm-hmm. Donc moi, je me suis dit, ok... rassemblons les entrepreneurs du Val d'Oise, fédérons avec des entrepreneurs qui n'ont pas forcément de lien avec le cinéma, mais justement, moi je propose une vitrine de ce Made in 95 par un projet, un court-métrage de 15 minutes,
oui,
mais effectivement en faisant des synergies. Et quelle meilleure synergie que trouver un lieu fédérateur dans le Val d'Oise pour tourner ce film. Je suis très content parce que nous allons tourner cette histoire à Cergy Préfecture, dans l'ex-tour EDF, la très tour bien. EDF de e-comicar, qui va bientôt être transformée, sans spoiler. Et donc, on va tourner cette histoire dans cette tour. Et on a eu la chance de la visiter. Il y a des étages qui n'ont pas bougé depuis les années 70. Quand on a fait les repérages pour le tournage, on a fait un voyage dans le temps. Un vrai voyage dans le temps. On s'est retrouvé quelque part entre Playtime de Tati, cette vision un peu futuriste qu'il y avait dans les années 70. Là, j'ai compris le sens du mot abondance. Mm-hmm. Là, j'ai capté qu'il fallait arrêter ça. Fait pourquoi pas. Mais donc, voilà, c'est l'idée de proposer.
L'idée principale.
Ouais.
Donc, vous avez des acteurs.
Ah, ça y est, oui, je suis déjà en train de faire le film.
Le casting a été terminé, oui.
Alors, Harold.
Donc combien de participants dans le film?
Alors, j'ai une équipe de 20 personnes.
Oui.
J'ai trois comédiens. Mon rôle principal, Harold, c'est Baptiste Belaïd, qui incarne actuellement, je sais pas si vous connaissez le podcast Les Odyssées sur France Inter. Les Odyssées, donc c'est un podcast qui fait 20 millions d'écoutes, c'est un truc exceptionnel.
Ah ouais.
Et ils en ont fait une adaptation au théâtre. Et Baptiste joue dans cette adaptation, dans le rôle du gardien. J'ai un comédien qui est un ami que je connais depuis 10 ans, qui a travaillé avec Robert Hossein. Voilà, bon, c'est
vous avez quand même
Francis Huster, voilà.
Des pointures.
Et, je suis très content parce encore une fois, l'idée c'est que moi ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis en train de rassembler l'équipe, mon équipe de cœur, en leur disant ok, faisons un court métrage, mais maintenant dites-moi quel est votre salaire, que j'aille me débrouiller avec mon bâton de pèlerin en fait.
Alors on y vient. Donc votre besoin c'est de trouver des sponsors pour le financement du film.
Ouais.
C'est quel budget?
Alors, selon les chiffres du CNC, n'est-ce pas? Oh, je vais révéler cette information après. Là, en fait, aujourd'hui, je suis en train de rassembler les partenaires premium, en fait. On a commencé à rassembler les partenaires. Partenaires premium, ça veut dire que, en contrepartie, je tiens à ce que le partenaire qui sponsorise, qui peut même être une union, par exemple, puisse avoir un retour sur investissement, des contreparties ou un placement de produits sur mesure. Je vais vous donner des exemples assez concrets. On a un assureur de chez Swiss Life, donc qui est indépendant, qui a dit ok, le projet me plaît, l'histoire est marrante, le projet, j'ai envie de mettre une bille, un billet. Par contre, les contreparties que vous proposez me branchent pas spécialement. Je fais ok. Par contre, c'est une histoire de guitariste. J'ai vu que vous travaillez avec un luthier de Pontoise. Oui, un luthier de Pontoise qui crée sa marque de guitare, Berg Guitar.
Qui est un artisan,
bien sûr. Guitar, pour ne pas le citer, on l'aime.
Oui.
Et effectivement, elle me dit, mais moi, donc l'assureur de chez Swiss Life, elle me dit, mais moi j'ai un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu être luthier. Ben, je lui ai proposé, en contrepartie de son investissement, une journée avec ce luthier. Je donne un exemple un peu à 180 degrés. Ce qu'on peut proposer, par exemple, à une union des commerçants d'une ville X ou Y, c'est que l'union participe au sponsoring, au financement du film, et en contrepartie, on organise une activité commerçante dans la ville, une animation
en relation
et qui mène jusqu'au cinéma de la ville pour projeter le film.
C'est ça, donc
c'est du sur-mesure.
Vous ne manquez pas d'idées. Donc vous nous avez pas donné le montant.
Alors si, un court métrage,
si
oui,
sauf c'est vrai. Si c'est confidentiel.
Non, c'est pas confidentiel. Encore une fois, le CNC fait un travail remarquable pour ça parce qu'il donne des points de référence assez concrets. Un court métrage aujourd'hui, en moyenne, ça coûte 150 000 euros.
D'accord.
Moi, je le fais à moins de 100 000, madame. Attention,
d'accord,
c'est à saisir.
D'accord.
Mais voilà, encore une fois, c'est extrêmement surveillé comme, comme profession. Effectivement,
oui, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Bien sûr que non. C'est tellement... Enfin, je veux dire, soyons logiques. Au bout d'un moment, le cinéma va être tout ce qui va être artistique. On va être en première ligne sur plein de questions. Je veux dire, c'est pas pour rien non plus si quand il y a commencé à avoir des hashtags de MeToo, de machin bidule, en ligne de mire, on avait quand même le spectacle. Il faut rappeler une chose, c'est que le cinéma, c'est du luxe. C'est un produit de luxe. Hein. Encore une fois, je fabrique un prototype. Je ne sais pas si ça va marcher
oui,
ou pas.
Oui, oui, oui.
Et par contre, il y a aussi économiquement, ce qui m'a toujours fasciné dans le cinéma, c'est qu'un spectateur, une spectatrice, va payer avant de savoir ce qu'on lui propose.
Il y a les critiques pour ça.
Il y a les critiques à la radio, hein, ouais, n'est-ce pas ? Mon deuxième amour. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est exceptionnel avec le cinéma, c'est que on est sur un coup de projecteur de la société. Et on pourrait parler du Covid, mais c'est peut-être...
Oui, on va plus avoir le temps.
C'est
parce
ça.
Que donc, ce qu'il faut se retenir, c'est que le tournage est imminent.
Ah, ouais.
À partir du moment où vous aurez trouvé les sponsors.
15 mai, oui.
Très bien. Vous faites une petite annonce, Damien, dans ce sens.
Damien recherche partenaire premium pour contrepartie sur mesure. Je vous aime. Si vous aimez le cinéma, aimons-nous ensemble.
Très bien.
C'est un peu
voilà.
70, ça, quand même.
Un projet pour lequel vous avez plusieurs partenaires. Je les ai vus. Bon, on n'a pas le temps de les citer.
La CCI.
Surtout, oui. Ben, écoutez, moi, je les citerai dans ma publication sur les
beaucoup.
Réseaux sociaux. Et puis, surtout, Nakano, voilà, qui vous soutient.
Qui porte, bien sûr.
Avec Laurent Klein et
Laurent
Klein
et Franck Besson qui ont été les premiers à croire à ce projet un peu décalé.
Oui.
C'est un projet, en fait, en résumé, c'est un projet tellement atypique d'un point de vue économique que les partenaires peuvent forcément s'y retrouver d'une manière
c'est
ou d'une autre.
Peut-être une histoire que vous aviez rêvé de voir au cinéma et que vous avez fini par écrire.
C'est toujours ça. On se rend compte qu'on est des raconteurs d'histoires et rien de plus.
Merci Damien, merci pour votre témoignage et puis vous nous tiendrez informés bien sûr, enfin, nous le serons forcément avec Laurent et Franck
de la suite du projet. Un grand merci à IDFM de m'avoir invité pour parler du projet.
On parlera de RGB une autre fois.
Mais la prochaine, faisons une émission crossover.
Allez, donc voilà l'économie en direct, moi qui finis toujours plus tôt, cette fois-ci je vais peut-être finir à l'heure. Donc c'est bientôt terminé. Un mot de conclusion avant de nous quitter, Jean-Luc Saussois.
Déjà, merci de votre invitation.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt, oui.
Non, j'ai pas fini. Oui, j'insiste sur la défense des artisans.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, face aux agressions commerciales que l'on subit, une des réponses ou les réponses peuvent passer par ce qu'on appelle les groupements momentanés d'entreprises. Donc ça, c'est un statut un peu particulier. Il y aura un événement à venir certainement au niveau national. Je suis sur le groupe de travail.
Oui.
Et ensuite, sur la coopérative artisanale de construction, qui est un statut particulier. C'est une SARL à capital variable. Donc nous en avons créé une avec l'aide de la directe en 2019, je crois, Ludovic. Et avec l'aide de Ludovic Mirmont, qui était aussi à l'initiative de ce projet. Et avec l'ancien président Ivelli, que je salue s'il nous écoute. Donc cette coopérative existe aujourd'hui,
oui.
S'appelle Copartibat. Nous sommes 14 entreprises regroupées, on représente quand même une petite centaine de salariés, donc c'est non négligeable. On est capable d'aller
sur
chercher...
Sur le 95,
sur
donc.
95, 78 et 91,
d'accord.
Mais principalement 78-95. On est sur des marchés qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, donc on est capable de répondre avec un interlocuteur unique. Donc une seule entité qui est la coopérative.
Oui. Là aussi, vous mutualisez toutes vos.
Alors, on mutualise surtout nos savoir-faire. C'est-à-dire qu'on travaille entre nous, en membres.
Oui,
entre
oui,
membres. Quasiment pas de sous-traitance, sauf s'il y a un lot très technique. Je vais dire, grosso modo, micropieux, par exemple. Voilà. Mais c'est vraiment d'avenir et on pourra en reparler. C'est vraiment très, très intéressant.
Vous incitez vraiment.
Nous sommes une des deux en Ile-de-France existantes. La deuxième étant sur le Sud-Essonne et qui est spécialisée en construction bois. Nous sommes vraiment amélioration de l'habitat, accessibilité, agrandissement, surélévation, enfin typique région parisienne.
Bien. Bah écoutez, moi on va essayer de vous faire revenir bientôt pour nous parler
merci
de tout ça.
Merci à vous, grand merci.
Je vous en prie Jean-Luc ce soir, merci à vous. Ludovic Mirmont, une minute avant de nous quitter.
Une minute, non, ça va aller. Non, je voulais juste rappeler donc la tenue de notre salon professionnel,
oui, hein,
le 1er juin, donc sur notre site de Saint-Ouen-l'Aumône. Là, ce que je disais tout à l'heure, donc toutes les entreprises qui veulent se renseigner sur la CAPEB, vous rencontrez des partenaires, il y aura une vingtaine de partenaires qui seront présents. Il y aura aussi des véhicules. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça progresse doucement mais sûrement.
Oui.
Donc il y aura quelques véhicules qui seront présentés, l'occasion de discuter aussi tarifs, autonomie, poids de charge, etc. Et donc voilà, vous pourrez voir les services de la CAPEB, tout le monde sera là, nos élus. Hein, puisque bon, la CAPEB c'est les présidents, les vice-présidents, les conseils d'administration, hein, et moi en tant que secrétaire général, je suis là pour faire fonctionner
pour,
tout ça avec
toute
l'équipe.
Tout le monde. Hein, très
qui
bien.
Fait, voilà, que je salue encore.
Merci à vous Ludovic, merci. Damien Morel, une minute aussi.
Une minute, bah, déjà oui, merci. Et puis si ce que je viens de vous raconter vous accroche d'une manière ou d'une autre, eh bien rejoignez-nous pour ce projet d'économie locale. Vous pouvez me contacter sur chableproduction au singulier, chableproduction@gmail.com. Mmh. Voilà, si le projet atypique.
Écoutez, en tout cas, le pitch comme ça est sympathique.
Ça,
hein,
va être très
sympa. On a envie de connaître la suite.
Ah ben, avec grand plaisir. Et si vous saviez où je vais vous emmener, oulala.
Bon ben, vous nous mettez
la bouche.
Suspense. Ouais. Oui, oui. Merci Damien Morel,
merci
d'être venu ce matin. En plus, un petit peu sur le fil parce que voilà, vous avez accepté de venir au dernier moment. Merci à vous. Voilà, l'émission est terminée. Merci Francky pour la technique. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs, pour votre fidélité, comme à chaque émission. Dans quelques minutes, retrouvez Christophe Gravreau et son émission Balade musicale à 11h. Ce numéro de l'économie en direct vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le portail de la radio. Mardi prochain, nous ferons un retour sur le salon Effervescence, avec dans nos studios les lauréats des différents trophées. Alors, à mardi 9h30 pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, belle journée, bon week-end, bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches.
Mes peines sur le banc de la cité, je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère?